voix du peuple qui monte au front pour le peuple. Le Robin des Bois des temps modernes.
Du Trisac.
Le peuple. Il y a Alain Pronkine qui est avec nous pour parler de religion. Alain, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Bon,
le lendemain d'une élection.
Oui.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Je voulais juste te dire une petite chose, une petite nouvelle, parce qu'on parle beaucoup d'éducation,
ben oui.
Puis ça vient de sortir. Je trouve ça exceptionnel.
Je t'en prie.
Il y a une exposition à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, jusqu'en janvier 2023. Ça s'appelle Franciscana. C'est quoi? C'est que les religieux, religieuses, les franciscains de la résurrection dans le quartier Rosemont à Montréal ont donné 700 titres datant des années 1400 à 1700 à l'UQAM. Et l'UQAM a décidé à partir de ça de prendre 12 livres qui ont plusieurs siècles d'existence, des livres pour les exposer au grand public. Il va y en avoir 12 comme ça. Et des livres qui datent de 1492. Et même dans un de ces livres-là, il y a des pièces de parchemin des années 1200. Et tout ça va être à l'UQAM jusqu'au 23 juin. Moi, j'adore les vieux livres. J'adore aller voir ça. Évidemment, on peut pas y toucher. Ça va être vitré. Ne soyez pas inquiets. Mais ce qui est important, c'est que ce qu'on a comme richesse culturelle au Québec va continuer. Et je suis content que l'UQAM puisse avoir 700 livres. Et dans les livres qui vont être exposés, il y en a un qui en a juste 3 copies sur la planète. C'est vraiment exceptionnel. Comme moi, je vais aller voir ça à l'UQAM.
Est-ce qu'ils ont passé à travers le contenu là, pour assurer qu'il n'y aura personne qui va se sentir micro-agressé ou tu sais à quelle époque
Je ne sais pas s'ils ont tout lu. Là. Oui, je sais. Mais en plus, dans une de ces choses, on va avoir des cartes des villes européennes des années 1500. Donc, on va voir de 1500 à aujourd'hui, il y a-t-il une évolution. Mais je pense que le patrimoine, c'est important. Je suis content qu'on ne se pose pas la question que ça va être détruit, mais que l'UQAM va avoir un endroit pour garder ces 700 documents qui vont sûrement servir pour la recherche. Puis ça, je voulais t'en parler parce que on a notre premier ministre qui vient de parler d'éducation. Ben l'éducation, c'est ça aussi. Et on donne des outils à l'UQAM. Je trouve ça très important, Benoît.
Parfait.
Pendant je voulais t'en parler temps, comme ça en commençant.
Ben non, t'as bien fait. le pape François, quand il est venu faire son tour au Canada, ça a coûté des bidous, hein?
Oui, ça a coûté beaucoup de bidoux, mais on n'a pas l'idée de tout ce que ça a coûté. Ce que l'on sait, on vient d'avoir les premiers chiffres. On sait que du côté de l'Église, ça veut dire le Richard Smith, qui est l'archevêque de mémoire d'Edmonton, a dit, écoutez, ça a coûté 18,6 millions à l'Église comme telle. Et ça concerne quoi, les 18,6 millions que l'Église a dépensés? Ils ont dit, parce qu'on a... on a pris beaucoup d'autobus pour déplacer les gens des Premières Nations, les gens qui ont été victimes dans les pensionnats. On a dépensé beaucoup d'argent pour les déplacer à Edmonton, à Québec et à Iqaluit. Donc, c'est eux qui ont assumé le coût des gens des Premières Nations ou des Métis ou encore des Inuits qui étaient déplacés. Et aussi, ça payait aussi les dépenses en sécurité de ceux qui accompagnaient le pape. Parce que moi, ça m'a toujours, j'ai dit, écoute, on invite le pape, le Canada va payer la sécurité du pape, mais est-ce qu'on va payer la sécurité de tous ceux qui étaient là, comme Monseigneur Parolin, le premier ministre du Vatican, Monseigneur Tcherny, les autres cardinaux qui étaient là? Bien non, semble-t-il que c'est l'Église qui assumait ces coûts-là, ainsi que les coûts d'hébergement. La seule chose que je sais, c'est que M. Coderre, l'ancien maire de Montréal, disait qu'il avait récolté 3 millions pour l'accueil. Est-ce que ce 3 millions-là a servi à ça? J'ai l'impression que oui. Mais on sait maintenant que le coût pour une semaine pour faire venir le pape, sans compter la sécurité assumée par Ottawa, Québec et les villes impliquées, c'est 18,6 millions. Au moins, on le sait.
On le sait. Ça nous donne un point de référence. Tu veux inviter le
pape? Un point de référence, mais là, il s'agit de... Ouais, c'est ça. Mais en plus, ce qu'on ne sait pas, là, j'ai hâte de voir les commissions d'accès à l'information quand les journalistes vont faire les demandes. Combien ça coûtait à Québec, Ottawa? Ça, je ne sais pas si on va l'avoir ou ça va tout être clavardé.
Est-ce que le Kazakhstan est au courant des millions de dollars que ça prend quand tu invites le pape?
Ça, je ne le sais pas. Mais le pape y est allé le 15 septembre. Et j'ai l'impression que le Kazakhstan a dû payer. Mais moi, quand j'ai vu le voyage du peuple au Kazakhstan, j'ai dit, bon, il s'en va là-bas, il va rencontrer, ils vont parler de pèlerinage, bon, pastoral, ça va bien. Mais Est-ce que c'est juste ça? Et là, ça vient de sortir. Ce qu'on a appris, c'est qu'il y avait d'autres motifs pour le voyage du pape au Kazakhstan. Et c'est quoi? Il a rencontré plusieurs jésuites qui étaient là-bas et il y a eu des négociations pour la libération de 215 prisonniers ukrainiens et 55 prisonniers russes. Qui sont ces 215 prisonniers ukrainiens? C'est ceux qui ont fait les héros de la guerre. Tu sais, à Mariupol, quand il y avait eu la grosse usine à Vostal, eh bien, qui ont été capturés, puis c'est la grosse. Il y avait eu beaucoup de morts de ça. Bon, ben il y avait eu des prisonniers. Eh bien, le pape, avec ses jésuites, ils ont participé aux négociations pour faire libérer ces prisonniers. Ils sont pas arrivés tout seuls. La Turquie s'en est mêlée. Mais le voyage était le 15 septembre. La libération des prisonniers a eu lieu le 22. Et on vient d'apprendre que le pape en a discuté avec les gens avec qui il était. Donc, on s'aperçoit qu'il y a souvent d'autres motifs à un voyage du pape. Et ça, c'en était une. Est-ce que c'est lui tout seul qui a réalisé ça? Je ne le crois pas. Ça doit être des négociations extrêmement difficiles, surtout quand on voit les réactions du président Vladimir Poutine. Mais le bon côté, c'est qu'on a réussi à libérer ces prisonniers-là. Il y en a qui sont restés en Turquie, parce que la Russie doit dire, écoutez, on veut qu'ils restent en Turquie, on veut pas qu'ils retournent se battre en Ukraine. Mais le pape aurait servi là-dedans. Et c'est pour ça que le pape dit que je supplie Poutine d'arrêter sa guerre. Mais là, on va voir le développement. Mais le pape s'implique. Et là, il va retourner au Bahreïn au mois de novembre. Il va faire quoi au Bahreïn? J'ai peut-être encore de la négociation.
T'as été un des premiers à parler de ce qui se passait dans la saga de Lev Tahar, hein, il y a fort longtemps.
Oui. Ah, 2006, je pense, Benoît. Où ça avait commencé, tout simplement, c'est que des femmes de Lev Tahar avaient quitté le Saint-Agathe-des-Monts, s'étaient réfugiés en Israël et avaient rencontré les policiers en Israël. Il y avait eu des articles de journaux en Israël de la situation qui se passait au Canada. Et moi, ça avait attiré mon attention. Tu le sais, je lis beaucoup et je trouvais ça intéressant, ce qui se passait en Israël. J'avais pas pu tout savoir parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient écrites en hébreu, mais je comprenais ce qui se passait. Et on sait ce qui est arrivé. Ils ont quitté le Québec, sont allés en Ontario, sont allés au Mexique. Là, leur leader est mort parce qu'il faisait une ablution, il est mort noyé. Et là, pour moi, tout était beau. Je t'ai dit il y a deux semaines, Benoît, ça y est, je pense, mission accomplie, le dossier est clos parce qu'on vient d'avoir les dernières condamnations à des peines de prison à New York pour kidnapping d'enfants et mariage illégaux. Fait que moi, j'étais sûr que c'était fini. Eh bien non, Benoît, c'est reparti. Mais là, je sais pas pour combien d'années. Au Mexique, où ils étaient réfugiés, on a procédé à 26 arrestations. La police mexicaine les a arrêtés pour quoi? Implication des membres d'une secte dans la traite d'êtres humains, de viol, de trafic de drogue et d'autres infractions graves. Bon, il y a même eu des gens qui sont venus d'Israël. Le consul israélien était là, Lior Batza. Tout le monde était là pour s'occuper de ça, de cette arrestation-là. Il y en a qui ont été 3 ou 4 qui ont été libérés de défaut de preuve. Et là, cerise sur le sundae, il y en a 20 qui se sont échappés. Dans les 26 arrestations, il y en a 20 et ils se sont dirigés vers le Guatemala. Benoît, je pense qu'on va encore avoir le dossier pour un bon 10 ans. J'espère que tu vas être encore avec moi dans 10 comment ans, on va encore en parler.
Mais comment ça ils se sont échappés? Comment ça fait qu'ils sont échappés? Ils passent pas inaperçus, ces grelots-là?
Non, mais ils ont réussi à le faire. Ils l'ont fait au Québec. Ils sont allés là-bas. Je le sais pas, Benoît, mais sûrement
qu'on pense à une autre nouvelle. OK, oui. Parfait. Non, mais c'est parce qu'on ne sait pas, fait qu'on va voir, mais on l'a à l'œil, la gang
mais
de
Lev Tahar. Mais le dossier est ouvert, on n'a pas le choix.
OK, oui. Parfait. Qu'est-ce qui se passe au Pakistan, là? Le sport féminin, là, c'est inacceptable.
Ça marche pas. Il y a un ministre, celui de l'alimentation puis du sport, il est pas d'accord. Il s'appelle Shamlon. Ce qu'il dit, il dit dans la province du Baltistan, qui est une province au nord-est du Pakistan, on veut faire un gala pour le sport féminin. Et lui, il est contre les galas pour le sport féminin. Je pense qu'il est contre tout simplement les sports féminins. Il est pas tout simplement contre les femmes. Parce qu'il dit tout simplement, ben, il dit, moi, je vais tout faire parce qu'en vertu de notre religion et de nos valeurs culturelles, il faut annuler ça et je vais tout faire comme fonctionnaire du gouvernement. Je vais travailler dur pour mettre un terme à ça. Donc, les filles, parce qu'on parle souvent des voiles, on en a parlé en Iran, on en a parlé depuis 2-3 semaines, ben là, c'est juste pour voir qu'au Pakistan, tu as des ministres qui disent, on va tout faire pour mettre un terme au sport féminin. Puis
mais ils peuvent consulter comment on fait en Iran. Là. C'est facile, t'envoies la police des mœurs, t'en tues une couple, oui. Là, puis les autres, en général, bon, ils vont manifester, mais ils n'ont pas d'appui à l'international. Ouais. En tout cas, ils n'ont pas beaucoup au Québec.
Fait que ça, ils n'ont pas beaucoup. C'est puis juste pour dire, au Pakistan aussi, ça va pas bien.
Bon. Et le Vatican, avant qu'on se quitte, là, ça, cette attaque contre un évêque qui est prix Nobel de la paix.
Oui, c'est l'évêque Carlos Bedo. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un prix Nobel de la paix pour le Timor oriental, parce qu'il travaillait pour la liberté du Timor oriental. Il a eu un prix Nobel de la paix en 96, ce gars-là. Et en plus, il était administrateur, c'était un évêque, au Timor oriental. Ben, il a agressé sexuellement des enfants. Et ce qu'on apprend, c'est qu'il a son prix en 96. En 2002, il offre sa démission à Jean-Paul II en invoquant des raisons de santé. Il l'a envoyé au Mozambique. Et là, il était au Mozambique. Puis là, il assistait des prêtres. Il rencontrait encore des enfants. Il faisait du catéchisme. Et finalement, ben là, semble-t-il qu'il est retourné actuellement au Portugal. Et on demande son extradition parce qu'on dit, écoutez, il a agressé sexuellement des enfants. Et là, le Vatican a décidé, ben écoute, on va le mettre sur la touche. Il peut plus sortir. Il peut plus faire ci. Il peut plus faire des messes. Mais hey, quand on y pense, en 2002, il a offert sa démission, puis c'est juste l'an dernier qu'on a dit, écoutez, il peut plus faire ci, il peut plus faire ça. Mais on y pense, là, prix Nobel de la paix, agressait des enfants pendant des années et des années où tu mords.
Fantastique.
Au moins, parfait. Le Vatican a bougé, pas assez vite, pas assez public, et quand on veut de la transparence, c'est ça. Vous avez vos évêques, vos archevêques qui sont pédophiles, dites-le. Parfait. Attendez pas 20 ans.
Alain Bronkin, merci. À la semaine prochaine.
Bienvenue, Benoît.